Bonjour Denis Boss.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, vous accueillir.
Plaisir partagé. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.
Voilà, on aime bien dans ces inventions à deux voix, justement, plutôt à titre conversationnel, d'échange, de rencontre avec une personnalité artistique ou autre, politique ou d'une autre discipline, pouvoir cheminer pendant le temps d'une émission ensemble. Et là, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, avec Denis Boss, nous allons évoquer notamment le métier de musicien, mais notamment plus précisément celui de compositeur, puisque c'est votre cheminement et qu'il y a aussi plein de rencontres qu'on va pouvoir découvrir, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours aussi qui existe, votre parcours, qui ont fait que voilà, la musique est devenue un centre d'intérêt, que c'est l'écriture musicale a pris aussi le pas et que ça a animé en vous toute une démarche que vous conduisez depuis de nombreuses années. Alors peut-être juste indiquer à nos auditeurs et auditrices aussi que vous êtes né à Bordeaux. Voilà. Et que vous y avez vécu un certain nombre d'années.
Voilà.
Et puis qu'à un moment donné, dans votre parcours, mais on y reviendra bien sûr au cours de notre conversation, vous êtes allé vivre et travailler en Belgique, et ceci depuis 1989. Donc peut-être on va revenir déjà à cette idée de Bordeaux, de l'empreinte familiale. Peut-être quel était votre contexte familial dans cette belle ville de Bordeaux, justement ?
Oh, c'était un contexte très simple, je dirais ouvrier. Voilà, avec un goût pour la musique qui était un peu différent pour mes deux parents, mais qui n'était pas quelque ouais. chose de très profond. Mais disons, en tout cas, pour mon père, il s'agissait plutôt de son amour pour l'accordéon et pour la musique de valse-musette. Et puis, pour ma mère, elle jouait un petit peu de piano, comme ça, je me rappelle, elle jouait du Chopin. Et donc, moi j'étais en admiration devant elle quand j'étais tout petit. Je me souviens vraiment de ces moments-là.
Oui, donc quand même un espace familial où la musique avait sa présence, et pratique en tout cas à la maison.
Oui, bah, disons, c'est vraiment une présence qui était... alors, si je dois l'expliquer, c'est un petit, ouais. peu, complexe, un petit peu plus complexe que ça.
Ça
parce
oui.
que mon père, amoureux de l'accordéon, ouais. m'a carrément mis l'instrument dans les bras.
Ah oui, carrément.
Il a fallu en jouer, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Ça aurait pu être extrêmement dommageable et traumatisant.
Oui.
Or, il se trouve que ben, la musique m'a plu. Donc,
ouais,
il a eu du bol, hein, finalement. C'est ça, je dois dire. Donc, bon, ok.
Mais ça veut dire qu'il avait une pratique régulière à la maison. Il jouait tous les jours, ou c'était de temps en temps.
Il ne jouait pas du tout. Il écoutait. Et puis,
Je
pense que c'est dans sa jeunesse, c'était des moyens de rencontrer des jeunes femmes. Il y avait des balles encore, surtout
bien
dans
sûr,
l'après-guerre.
Bien sûr.
C'était quelque chose qui était assez répandu.
Puis, c'est le moment où il y a une vogue très importante de la place de l'accordéon.
Voilà,
de cet instrument,
c'est ça, tout à fait.
Passant aussi bien de la culture populaire à une culture plus classique aussi de cette utilisation de l'instrument.
Exactement. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cet accordéon sur les genoux.
Et votre mère qui jouait aussi.
Et ma mère qui jouait du piano comme ça, mais très épisodiquement.
Ouais, ouais.
Mais il se trouve que ouais. par rapport à des choses que je ne voudrais pas trop développer, mais qui étaient quand même difficiles ouais. pour moi dans l'enfance, ouais. la présence du piano, davantage du piano dans la maison m'a permis de m'échapper de certaines difficultés.
Ouais, voilà. Oui.
Et donc, c'est comme ça que la musique est devenue importante pour moi.
Alors ça, c'est déjà un point de départ important. Effectivement, on sent qu'il y a des assises, hein, qui vont se, des racines peut-être aussi, qui vont arriver à prendre jour. Et peut-être à partir de là, il y a ce qui se passe à la maison. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments musicaux, des choses que vous écoutiez, des choses que dans l'univers de la musique populaire ou autre qui du voisinage ou des musiques qui vous intéressaient, par exemple, au-delà de ça.
C'est triste à dire, mais j'étais dans un monde fort clos.
Fort clos.
Donc vraiment comme s'il était fermé sur l'extérieur.
C'est ça.
Et donc,
donc peu d'espace était... avec d'autres environnements sonores ou musicaux.
Très peu. Et la seule musique qui est entrée, bon, à part ces musiques musettes qui sont vite devenues insupportables pour moi, c'était celle que je pouvais inventer. J'avais cette liberté de pouvoir inventer des
choses sur le piano, donc.
Voilà, au piano. Et ça a échappé un petit
bien
peu
sûr.
À ce monde fort clos. Donc c'est presque à contrario, c'est comme si je n'avais pas été influencé du tout.
C'est ça.
Je me suis ouvert à la musique extérieure que beaucoup plus tard.
Mais en tout cas, il y avait déjà cet espace d'invention à l'intérieur de la maison.
Comme un espace salvateur.
Voilà, c'est ça, comme un espace salvateur.
Et donc la composition, j'écrivais déjà pour me sauver.
Il y avait déjà l'idée d'écrire, quoi.
Plus que l'idée, c'était vraiment
des oui, déjà, de... c'était très abouti. Vers quel âge, alors, du coup
Ça commençait déjà très tôt. Je ne pourrais pas dire d'âge exactement, déjà 7-8 ans.
Oui, il y avait déjà, d'écrire déjà la musique.
Oui, je l'écrivais déjà. Voilà,
oui, donc on comprend mieux que plus tard... il y a eu des enfin que ça va venir vous allez commencer bien sûr comme tout un chacun à suivre certaines études, il y a quand même l'aspect scientifique qui vous importe aussi à un moment donné dans vos études et qui entre en balance un petit peu avec l'univers musical ou c'est l'univers musical par ses facettes qui vous amenait vers la science?
Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça, c'est en fait la musique ça ne m'apparaissait pas comme quelque chose d'important, ouais. C'était juste quelque chose que je faisais parce que j'aimais ça.
C'est ça.
Mais ce qui était important, c'était d'étudier et de faire, et de suivre la meilleure voie possible. Donc là, c'était un bac scientifique, et puis alors ensuite les classes préparatoires. Et puis intégrer,
une filière quelconque qui vous aurait emmené dans un champ scientifique, quoi.
C'est ça. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était pas ma voie.
C'est ça.
Et là, je me dis, quelle est ma voie? Enfin, bon, mais c'est une histoire très banale, en fait.
Oui, mais à un moment donné, il y a interpellation, est-ce que c'est le bon chemin, pas le bon chemin?
C'est ça.
Et là, c'est là où la musique, vous vous êtes dit...
je me suis dit, est-ce qu'il était encore temps que je devienne musicien?
C'est ça.
Après avoir fait toutes ces études-là.
Ouais.
Et donc, j'ai dit oui. Et là, il s'est passé qu'il y avait à Bordeaux une classe de composition.
Ouais. Qui était d'ailleurs assumé par quel compositeur?
C'était Michel Fustel-Lambeza.
D'accord.
Voilà. Et donc.
Et là, vous avez trouvé une oreille réceptive.
Je suis allé voir avec mes petites partitions qui étaient vraiment. Et puis, il était gentil. Il a regardé ça. Et puis, je me rappelle toujours, il a dit: oh, mais ça serait dommage de laisser passer ça.
Ah, quand même.
Certainement, il ne le pensait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était tellement chouette de me dire ça.
J'imagine.
Et donc, j'étais tout content.
C'est un encouragement fort se dire, oui, tiens, je peux peut-être essayer d'arriver à écrire la musique que je sens que j'ai besoin d'écrire.
Et là, psychologiquement, c'est des années quand même de grands conflits. Parce que d'un côté, il y avait laissé ses études qui étaient quand même presque abouties, presque terminées, puisque je me destinais à devenir géomètre expert.
D'autant plus.
Et donc, et donc il y a eu un choix terrible, et recommencer tout.
Et comment a réagi votre père, votre mère, par rapport à cette nouvelle désir d'orientation?
C'était une catastrophe.
C'est catastrophique.
Ça a été vraiment très difficile, mais c'est une histoire banale.
Mais, quand même.
Oui.
Donc du coup, ça s'installe à Bordeaux.
Ça s'installe à Bordeaux, et puis il se trouve que cette classe de composition, alors il y en a certains qui disent c'est l'école de Bordeaux, je crois que c'est une bêtise de dire ça. C'était quand même, mais par contre, ce que c'était quelque chose qui donnait vraiment des opportunités d'expérimentation.
Donc ça, c'était important, effectivement.
Parce que deux fois par an, on avait quand même un ensemble orchestral à disposition.
Ah oui.
Deux fois par an.
Deux fois par an, c'était conséquent.
C'était conséquent, Et avec totale liberté.
Donc là, quand même, un climat, je dirais, de transmission, d'apprentissage, de découverte.
Tout sur le tas, quoi.
Tout sur le tas, donc très dans la pratique.
Alors j'écrivais un peu n'importe quoi, évidemment, au début, et puis je pouvais entendre le résultat, et c'est ça. Après, avec des remarques plus ou moins pertinentes des uns et des autres, jusqu'à ce que, à un moment, je trouve un petit truc qui faisait que ça marchait.
Vous semblez que ça marchait un peu mieux.
Mais on m'a laissé le temps d'arriver jusque-là.
Ce qui est plutôt intéressant.
C'est très intéressant, mais ça, je n'ai compris qu'après. Et là, j'ai rencontré des personnalités quand même, au fil du temps, très intéressantes, outre Michel Fustel-Lambeza, qui lui était quelqu'un vraiment qui connaissait très bien l'orchestre, l'orchestration, ces choses-là. Il y avait aussi un certain Marc Jory-Guibéry, qui était plutôt lui un harmoniste avec lequel aussi j'ai pu développer toute une formation vraiment technique de base, et puis alors Ensuite, François Rosset, qui était là.
Et oui, alors François Rosset, en plus, par la résonance contemporaine et à cette émission, parce que c'est effectivement un compositeur que nous avons croisé aussi ici, dont nous avons interprété aussi plusieurs œuvres, donc un sacré personnage aussi.
Pour moi, là, ça a été une sorte d'éblouissement.
J'imagine.
Surtout dans mon... Je connaissais rien du tout, quoi. Puis il y a un type comme ça qui arrive. Alors c'est forcément, on est, quand on est un peu bébé, on se dit wow, qui est ce génie qui arrive. Bon, évidemment après j'ai relativisé, mais
bien
bon.
Sûr.
Et puis surtout, c'est quand même quelqu'un qui était très 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 gentil, et
tout
très,
à fait,
très ouvert et,
ouais.
et qui jouait du piano avec un son incroyable.
Absolument.
Qui était capable d'imiter des instruments jouant du piano, des choses que j'avais jamais entendues.
C'est ça.
Et là j'ai, dans ces cours d'analyse, j'ai découvert c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir, alors vraiment, vraiment à la musique contemporaine, et pas que d'ailleurs, à toute l'histoire de la musique.
Bien sûr. Et là, pendant ce moment-là, il n'y avait pas de pratique instrumentale. On évoquait l'accordéon tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait.
C'est-à-dire que non.
Il y avait quand même non.
J'ai eu comme ça une sorte de pensée que de toute façon l'instrument c'était foutu à mon âge.
Ouais.
C'était même pas la peine
d'essayer. C'était pas la peine d'essayer.
J'avoue que c'était complètement crétin. Mais c'est bien ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et je me suis dit, je veux faire que la composition.
C'est ça.
Et donc, c'est. Enfin, voilà, il y a un côté un petit peu idiot dans cette démarche.
Pas forcément.
Pas forcément, mais bon, c'est peut-être... on en reparlera après, pourquoi je dis ça, mais voilà. Et puis, il y a eu Étienne Rollin aussi, qui était
ensuite. Oui, Étienne Rollin, bien sûr.
Enfin, les deux sont devenus des amis, chacun dans leur
domaine. Chacun dans leur domaine, bien sûr.
Voilà.
Oui, donc, on voit qu'à Bordeaux, là prend naissance vraiment, les ferments, et pour pouvoir aborder ce métier aussi de compositeur. Vous aviez déjà une idée, justement, précise ou pas du tout, de se dire « Ouais, je vais faire compositeur, mais c'est quoi ce métier? C'est quoi d'être compositeur ?» Vous aviez déjà des représentations de cette idée ou au contraire, il n'y en avait pas, mais que vous avanciez?
Au départ, il n'y en avait pas. Et je me demandais bien ce que j'allais devenir.
Oui, c'est une sacrée aventure de vouloir se lancer cette...
Mais voilà... C'était un premier pas hors des sentiers battus, quoi. Mais en même temps, avec toutes les résistances et les empêchements intérieurs qui se développaient. Et voilà. Et puis donc, à un moment, il y avait des jurys qui venaient jusqu'au moment. Puis là, il y a eu Jacqueline Fontaine, qui était une compositrice belge qui vit en Belgique, Et donc là, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais vous avez une classe à Bruxelles, est-ce qu'il y aurait une place pour moi?
C'est comme ça que le voyage, de quitter Bordeaux et de pouvoir vous rendre, d'aller à Bruxelles, c'est grâce à Jacqueline Fontaine.
C'est ça, parce qu'elle a dit oui.
Elle a dit oui.
Donc je suis allé.
Et c'est vrai que pour nos auditeurs, c'est important de poser quelques mots sur cette femme. D'abord, une femme compositrice. Donc
oui,
ça, c'est déjà important, parce qu'il n'y en avait pas tant
courant.
Que ça. C'était pas courant. Et puis c'est une grande dame, on va dire, en Belgique. C'est une grande dame, on pourrait parler de Betty Jolas ici en France. Suzanne Giraud, toutes ces femmes compositrices importantes aussi sur notre territoire français. Et là, c'est effectivement du même ordre pour Jacqueline Fontaine en Belgique. Donc là, une rencontre importante, effectivement.
Une rencontre importante, puis elle a insisté parce que... une fois qu'elle a eu dit oui, moi j'étais un petit peu négligent, et puis j'ai laissé un peu tomber.
Et c'est elle qui est revenue vous chercher.
Elle est revenue, mais elle dit, mais on vous attend là pour le concours d'entrée, qu'est-ce que vous faites, vous êtes où?
Je vous attends.
Et donc là j'ai dit, quand même, si elle dit ça, je vais y aller.
Et là, Bruxelles, c'est en quelle année?
Là c'était autour de 89.
89,
Oui. Et donc, même un petit peu avant peut-être aussi.
Thank you. Voilà, nous continuons notre conversation, notre échange à deux voix avec Denis Boss. Et après l'écoute que nous venons d'avoir, nous étions arrivés au fait que vous étiez cette rencontre avec Jacqueline Fontaine dans la classe de composition à Bruxelles. Peut-être quelques mots, parce que là aussi vous allez côtoyer dans cette classe, on évoquait l'importance de Jacqueline Fontaine justement donc dans ce conservatoire et la posture de compositrice qu'elle avait. Et donc comment étaient les relations avec ceux et celles? Y avait-il aussi des jeunes femmes compositrices déjà à votre époque présentes dans la classe?
Oui, il y avait notamment Elisabeth Anderson,
oui.
qui elle ensuite s'est orientée vers la musique électronique seulement, qui fait une grande carrière maintenant. Et puis il y avait aussi beaucoup d'élèves, c'était déjà très international comme
c'est
classe,
ça.
Il y avait même un Chinois.
Donc ça c'était intéressant par rapport à Bordeaux,
voilà, c'est ça.
Ça ouvrait déjà les univers.
Tout à fait, ça ouvrait les univers.
Les échanges étaient faciles entre vous?
Oui, tout à fait, il y avait vraiment une vraie classe, avec, elle savait, même si c'était des cours individuels, mais il y avait quand même, parce qu'elle nous réunissait chez elle.
Ah, c'était chez elle?
Non,
de temps en temps chez elle.
Au conservatoire, mais voilà. Un week-end sur deux, on devait aller, elle nous invitait chez elle.
Et alors là, chacun était amené à présenter des travaux
devant les autres. C'est ça, oui. Et puis après, on était invité à aller l'aider à cueillir ses pommes dans son verger.
Ah.
Donc on se demandait si c'était pas pour ça qu'elle nous avait invité finalement. Mais non, ouais. Je plaisante. C'était quand même, c'était dans les plaines, pas loin de Waterloo, vous voyez.
D'accord.
Bon,
d'accord.
Moi, c'était très bizarre pour un Français, que je découvrais ça.
Il y a des mémoires.
Voilà. Mais c'était quand même, c'était une très belle endroit. C'était une très très vieille maison.
Oui, donc il y avait quand même toute une dynamique.
Voilà.
C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve. On peut penser aux classes de Messiaen, on peut penser à d'autres compositeurs.
Toutes proportions gardées.
Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est plutôt ce côté, pour certains compositeurs, dans leur acte de transmission, dans la tenue de la classe, et dans comment ils tenaient à poser une certaine ambiance, à trouver un certain relationnel, à comment, je dirais, ne pas être... de comment trouver la juste relation avec chacun de ses élèves et comment ça communique aussi entre les élèves, l'importance du collectif.
Ce qui s'est passé avec elle aussi, c'est que elle a quand même une formation extrêmement classique au départ.
Oui.
Et moi, j'arrivais avec quand même des idées
tout autres,
sous l'influence de François Rosset.
Bien sûr.
Donc bon, ça a fait quand même des rencontres parfois un petit peu.
Elle était ouverte, hein, c'est justement.
Alors,
c'est...
elle était ouverte, mais elle avait toujours un côté hyper réaliste.
C'est ça.
Donc ça m'a fait du bien parce que c'était quand même... elle disait, oui, mais là, sur le possible et l'impossible, il y avait toute une discussion à ce niveau-là qui était très intéressante. Et puis il s'est passé des choses étranges, c'est que je pense qu'on a eu une sorte d'auto-influence comme ça. Je ne veux pas avoir l'orgueil de dire que je l'ai influencé. Mais
non, mais en tout cas de la réciprocité.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à un moment donné à avoir écrit... une pièce qui avait le même titre, sans se concerter.
Ah, ça, c'est excellent.
Et donc, on était extrêmement surpris.
Interloqués l'un de l'autre.
Chacun, donc, je lui amène cette pièce et elle voit que c'est le même titre que ce qu'elle vient de faire. Et c'est quand même très bizarre, seulement. Ouais. C'est assez significatif parce que la pièce s'appelait Polissonnerie.
Oui.
Elle avait écrit ça comme polisson. oui. pour son titre. Et moi, j'avais mis Poly, trait d'union, avec Y, donc oui. Poly, sonnerie.
Très bien.
Donc, il y avait quand même une petite différence assez oui, caractéristique oui. de nous.
Tout à fait. De vos tempéraments, si je peux dire aussi, et votre manière d'aborder la chose.
Voilà. Et bien, du coup, on a gardé ça, mais c'était sympa quand même, ouais.
Donc là, on sent qu'il y a, une petite conque, il y a un endroit très fertile, finalement.
Voilà, il y a eu une sorte de relation quand même étroite ouais. entre nous deux.
Et la dynamique des autres aussi, c'est-à-dire cette dynamique des autres élèves et étudiants de la classe,
oui,
elle était porteuse aussi, cette dynamique?
Oui, c'était assez porteur, mais c'était aussi quand même des gens qui travaillaient à l'époque dans un style très classique, ouais. qui moi, au départ,
pour le coup,
voilà. C'est pour ça que ouais. je ne suis pas resté dans cette oui. classe, mmh. et je suis parti à Liège, dans la classe de Frédéric Jevski.
Oui, autre grand compositeur.
Autre grand compositeur et pianiste avec une approche complètement différente.
C'est ça.
Et là, c'était quand même...
Vous vous êtes plus retrouvé, finalement.
Voilà, c'est ça. Plus de liberté,
plus
de désinvolture, je dirais.
Oui.
Et donc, ça me plaisait bien. Et ça, puis alors, toute l'ambiance du Conservatoire de Liège, il y avait encore Pousseur, il y avait...
Oui, alors, Henri Pousseur, pour nos auditeurs aussi, fait partie des très grandes personnalités, alors au niveau international, il va créer justement à Liège le centre Henri Pousseur, au travers des musiques électroniques, électroacoustiques, informatiques. On peut faire le pendant avec Berriot, qui à un moment donné va créer, lui, aussi à Florence, son studio aussi, ouais. également. Ouais. Donc là, voilà, là on voit aussi qu'il y a des personnalités fortes ouais. aussi en Belgique ouais. qui ont contribué
oui,
à...
Oui, bah, lui,
à des
vraiment,
éléments importants.
C'était très important parce que tout le conservatoire respirait ouais. de lui.
Autour de Pousseur.
Voilà. Donc il y avait de la musique contemporaine partout, tout le temps.
Ouais.
Et donc ça, c'était vraiment génial.
Ça, c'est sûr qu'il a donné un influx extrêmement important.
Je ne regrette pas d'avoir été à Liège pour ça.
C'était la fin pour lui.
Mais quand même, j'en ai profité un petit peu. Quoi.
Ouais.
J'ai rencontré des compositeurs quand
même. Voilà,
comme Claude Ledoux, par exemple, oui. Michel Fourgon. Voilà,
toute une génération de compositeurs aujourd'hui très importants qui sont voilà. là en Belgique et ailleurs, oui. bien évidemment.
Oui, c'est ça. Et donc, j'ai pu m'intégrer. Il y avait aussi des interprètes très
oui, c'est parce que là aussi, il devait y avoir des musiciens.
Jean-Pierre Peuvion.
Oui, célèbre clarinettiste aussi.
Voilà, c'est ouais. ça. Jean-Paul Dessy, comme violoncelliste, qui ensuite est devenu chef d'orchestre. Et compositeur aussi.
Ouais.
Et voilà, donc ça c'est comme ça.
Ça aussi, c'était une émulation.
Musical,
ouais. voilà, c'était. Alors, du coup, ça a permis de tisser les relations.
C'est ça.
Pour pouvoir faire que votre musique, petit à petit, puisse trouver sa place aussi également.
Voilà,
parce qu'on voit bien qu'aussi, il y a cette problématique de pouvoir tisser des relations
des
pour
liens,
que d'autres aient des liens, pour que votre musique, elle puisse exister aussi.
Tout à fait. Bah, c'était pas facile, mais bon.
J'imagine.
Ça, quand même. J'étais. Ouais.
On parlait d'Henri Pousseur, peut-être on peut... Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Est-ce que on sent bien qu'il y a une empreinte très forte pendant de nombreuses années par celui-ci, par la dimension, par de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui, vous diriez, qui a encore de l'influence encore aujourd'hui sur ce qui se passe encore en Belgique? Il a encore une influence?
Je pense quand même, oui. C'est-à-dire que c'est un compositeur, mais c'est aussi un théoricien.
Tout à fait.
Et en tant que théoricien, il est quand même...
Une pensée forte.
Il y a quelque chose qui reste quand même de ce qu'il a développé. Mmh. Et je ne suis pas... Enfin, c'est un peu pédant de dire ça, mais je ne suis pas certain qu'il a su le développer autant qu'il aurait voulu
le faire.
Ou aussi bien que ça aurait pu être fait dans ses œuvres. Voilà. Mmh.
Il n'a pas réussi à refaire le lien.
Il a réussi, mais je ne sais pas.
Mais pas autant, peut-être pas autant que vous pensiez qu'il aurait pu le faire.
C'est-à-dire qu'il y a dans sa théorie tellement de possibilités.
C'est vrai.
Qui ont été exploitées par d'autres.
Oui.
Et ça, c'est une générosité.
Et ça, c'est magnifique.
Incroyable.
Tout à fait.
Voilà. Et son œuvre me semble, par rapport à l'ouverture de sa théorie, un peu plus fermée. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que. S'il n'y avait pas la théorie, on ne pourrait pas tout à fait comprendre qu'est-ce qui soutient son œuvre.
C'est ça.
Voilà.
Alors on sent bien que à Bruxelles, à Liège, c'est d'autres couleurs, c'est d'autres manières d'être en musique, et que là il y a une dynamique qui vous porte, et que celle-ci, elle va vous amener aussi vers d'autres aventures. Et je voudrais peut-être peut-être que c'est le moment aussi d'en parler dans cette ouverture que va générer aussi cette posture et cette présence à Liège vers un autre pays francophone. celui-ci vers d'autres personnes aussi qui marquent aussi tout le travail de la création. Et là, je veux évoquer le Québec, le Canada, plus particulièrement Montréal, avec la présence donc de du Nouvel Ensemble Moderne et puis de la grande chef d'orchestre Lorraine Vaillancourt. Et là, comment à un moment donné cette rencontre a pu se faire ? Parce que là, vous avez écrit quelque chose pour cet ensemble.
C'est ça. Mais en fait, je dois un peu le mettre en parallèle avec la pratique de la psychanalyse.
Alors voilà, oui, il y avait cet élément-là lequel il faut qu'on arrive, effectivement. Oui.
Mais c'est-à-dire que donc, le fait de mener une psychanalyse m'a fait beaucoup réfléchir sur l'écoute. Et sur, d'une part, l'écoute, puisque en psychanalyse, l'écoute, c'est quand même quelque chose d'important.
Effectivement.
Qui rejoint la musique, forcément.
Tout à fait.
Pour moi, en tout cas.
En tout cas, on se questionne sur les conditions d'écoute. Et qu'est-ce que c'est que l'écoute ?
Et donc, ça, et puis l'adresse. L'adresse, à qui s'adresse l'art, en général. Mais en ce qui concerne l'écoute, d'une sorte de parallélisme avec l'inconscient, je me suis mis à me demander, mais qu'est-ce qui est... En quoi l'écoute est reliée à l'inconscient ? Et donc, j'ai écrit, à ce niveau-là, tout un cycle qui s'appelle « Les chants de l'inaudible », mais les chants avec un M-P-S.
Donc,
voilà. Et ces chants de l'inaudible... C'est la recherche de qu'est-ce qui est dans l'écoute que l'on n'entend pas, mais qui fait l'écoute. En quoi écouter quelque chose va aller faire bouger des choses qui sont inaudibles dans chez l'auditeur,
chez l'interprète.
Et au départ, chez le compositeur, dans l'autre sens peut-être. Bon, et ça, c'était tout un cycle que j'ai proposé, une rencontre fortuite qui s'est faite à Paris avec Lorraine. Je lui ai proposé ça, je lui ai dit, voilà.
Pourquoi pas ?
Et donc, là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris ? Elle a dit, vous pourriez venir faire une résidence d'un an. Voilà.
Et donc,
donc, j'ai écrit à ce moment-là, il y avait déjà une pièce qui s'appelait alors, Les chants inaudibles, mais avec un AN, donc qui fait partie du cycle global. Et là, j'ai écrit d'autres pièces du cycle qui ont été jouées par son ensemble. Donc il y avait Each of Them, chacun d'eux, et puis une autre pièce pour piano solo, une grande pièce pour piano solo qui s'appelle Liance. Voilà.
Donc et là, une merveilleuse rencontre là. Parce
ben que, oui, c'était vraiment bon. Ben,
découvrir.
Moi,
aussi.
Je me sentais tout impressionné évidemment et très très heureux de qu'elle s'intéresse comme ça.
Mais c'est sûr qu'elle a toujours démontré une très grande ouverture esthétique, musicale, s'aventurer avec des confirmés, avec d'autres jeunes compositeurs.
Le fait de défendre, quoi qu'il arrive, le projet qui est proposé, c'était vraiment... pour moi, ça a été quand même quelque chose de très très important. Je suis très reconnaissant.
Je comprends tout à fait. Oui. Puis elle a marqué, elle aussi, de nombreuses générations de musiciens et de compositeurs, justement par ce questionnement qu'il peut y avoir aussi par rapport à l'interprète, justement de le degré d'engagement lorsqu'on... D'ailleurs, quelle que soit une œuvre, qu'elle soit classique, et d'autant plus quand on va la créer, la manière dont le va porter...
Oui, je dirais chez elle, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le souci de l'excellence.
C'est ça.
Dans sa direction, dans sa précision.
Ouais. Oui.
Voilà, ça c'est quand même quelque chose que je n'avais pas trop rencontré
jusqu'à présent.
Voilà, à ce niveau-là en tout cas.
Oui, puis en même temps, ça vous a permis de découvrir une autre culture finalement aussi.
Ah oui,
parce que un an à Montréal, ça devait être aussi...
Je n'ai pas passé un an... j'ai fait des allers-retours et puis ensuite il y avait son festival au domaine forgé
aussi,
là aussi j'étais invité pour présenter le travail fait avec elle et voilà, c'était un
moment passionnant,
c'était vraiment chouette.
Ma sinusite est banale, j'ai froid, elle me fait mal. Mais est-ce que tu m'aimes encore? J'ai les yeux qui me font mal. Je reconnais ta vie là. Si tu m'aimes encore. T'as tendance à fuir une certaine loi que tu n'aimes pas. Et moi, qu'est-ce que je fais de celle-là? Je ne peux pas la laisser choix. Tu ne veux pas me mettre en doute. Tu vas dire que ça te convient pas. Car ma sauvagerie t'angoisse quand ton corps n'y répond pas. Il a envie d'être pénin, mais il n'a plus d'adrénaline, ça se débile. Et tu aimerais te rassurer en t'éprenant d'autres facettes de la foi. Dans un micro qui rallumerait ta foi. Ça me fait mal, ma sinusite. C'est pas très érotique, c'est le crâne qui s'emballe, la fontanelle qui s'ouvre, les os qui sont mal soudés. Je reconnais que c'est pas l'idéal, c'est pas une flamme au fond des yeux, mais la fièvre de la peur de devenir malheureux. Est-ce que tu m'aimes encore?
On tire petit à petit ce fil voilà, de comment les rencontres qui ont animé votre parcours et continuent bien sûr de l'animer, du coup amènent des éléments importants. Alors, peut-être qu'on peut, on commence à aborder, à dessiner, peut-être de se rapprocher finalement au travers de tout ce cheminement, là, premier. Qu'est-ce qui un petit peu nourrit vos inspirations aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire là présentement dans votre chemin dans la composition?
Ben là pour l'instant, alors d'une part il y a ce qui est extra musical,
oui,
mais qui en même temps est très 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 important pour moi, c'est comme je viens de le dire la psychanalyse.
Oui. Et ce côté-là donc très fort, très, très important.
Très, très important, oui, à plusieurs niveaux, hein, donc l'écoute, ça oui. C'est déjà un peu, enfin j'ai avancé là-dessus. L'adresse, c'est toujours pour moi quelque chose d'important,
oui.
Parce que je pense que c'est très significatif en musique, je crois. Mm. Quand je crois que si on est honnête, quand on écrit ou quand on crée, il y a toujours un dédicataire, il y a toujours quelqu'un à qui, même si on ne le sait pas, mais ça s'adresse toujours, oui, à quelqu'un. Mais ce qui est assez étrange en musique, c'est que lorsque ça se passe, il faut bien que ça passe par l'oreille des auditeurs.
Oui.
Ça peut pas aller directement comme ça, ou alors ça serait vraiment une situation. Et pour que l'œuvre existe, il faut qu'elle soit écoutée.
C'est ça.
Et ça, c'est un détournement, en fait. Il y a une sorte de paradoxe. Pour que ça parvienne à quelqu'un ou à celui qui est fantasmé comme dédicataire, il faut que ça soit détourné par l'écoute en public, en concert. Voilà. Et donc c'est ce phénomène-là,
qui
m'intéresse beaucoup.
Bien sûr, je comprends.
Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un opéra qui était sur cette nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle La lettre volée.
Oui.
Parce que cette lettre, elle est comme ça, que c'est écrit par, bon, je ne sais plus, un duc à la reine qui lui dit, il lui envoie, donc c'est adressé à la reine en lui disant son amour, évidemment. Mmh. Et puis elle est volée par un ministre, et donc elle est récupérée ensuite par le détective Dupin et qu'il la remet à la reine. Donc il y a un détournement
là aussi.
Elle ne lui arrive pas directement. Elle a dû être volée, puis retrouvée et puis revenir pour parvenir à la reine. Voilà. Et donc cette symbolique que Edgar Poe, je pense,
il a très bien compris ça,
toute sa pensée psychanalytique, oui, avant
bien
la lettre.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, c'est ça que. C'est vraiment un opéra psychanalytique, je dirais.
Oui, voilà, vraiment, qui a rejoint vos deux préoccupations.
Voilà, et donc, notamment à cause aussi du séminaire sur la lettre volée de Jacques Lacan,
oui,
où il fait toute cette analyse de ce détournement.
Très intéressant aussi de oui. pouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que vous continuez même encore aujourd'hui. C'est une des facettes.
C'est une des facettes qui m'inspire. Et puis, parallèlement, donc, après avoir fait cet opéra, ça m'est apparu quand même qu'il y avait une dimension dramatique qui me plaisait bien dans la musique. Et donc, ça, j'ai continué à développer, même dans les pièces qui ne sont pas.
D'ordre opératique.
D'ordre opératique, et notamment en m'inspirant, c'est bien ça, d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Georges Apergis.
Voilà. Et là, totalement.
Voilà, oui. Et ça, je continue, parce que c'est vraiment... je pense que c'est quelqu'un qui mériterait davantage de reconnaissance actuellement, parce qu'il a vraiment... tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il a élaboré, est trop méconnu. C'est vraiment...
Je rebondis justement avec Georges Apergis et je suis assez tout à fait d'accord avec le côté de ce manque de reconnaissance que mériterait le travail qu'il nous propose. Et il dit aussi ceci, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de fabriquer mes propres systèmes avec la musique qui en découle et c'est aussi plus gratifiant. Mmh. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où la musique peut organiser un ensemble d'éléments divers. Là aussi, c'est intéressant aussi dans sa manière de vouloir approcher les choses. Et il dit encore un petit peu ceci, faut-il exagérer, jouer avec le texte ou contre lui ? Je vois toujours ma musique comme quelqu'un qui vit et qui respire. Je me dis, il pourrait aller par là ou par ici. C'est un parcours, c'est un voyage qui joue beaucoup sur la mémoire. On reconnaît des choses que l'on a entendues et qui ensuite se transforment.
Oh, merci beaucoup, je ne connaissais pas ces
voilà quelques propos de
vous voyez quand j'ai perdu ça rejoint la psychanalyse aussi parce que
tout à fait.
C'est marché, il n'y a pas de chemin, il y a juste un territoire et,
tout à fait.
Et on progresse là et voilà. Ça, c'est quand même merveilleux. Enfin...
Oui, puis ce côté-là aussi engendre aussi la question de comment celui qui vient écouter, l'auditeur, le spectateur, là aussi, ça permet aussi de revisiter qu'est-ce que c'est que cette relation au spectateur. Est-ce qu'il est dans une écoute formatée? Est-ce qu'on l'invite à être dans une dynamique qui est tout autre et qui l'oblige à être dans un cheminement pour... trouver aussi cet espace qu'on veut vous parler du détournement de la lettre et de là où on veut essayer de faire que lui aussi trouve cet espace d'écoute interne aussi. Et là, c'est vrai que ça pose tout ce que peut-être la nature du concert, ses formes.
Et je trouve d'autant plus l'époque avance, je dirais, plus je trouve que c'est important, tellement la normalisation est à l'œuvre et tellement il faut trouver une résistance, enfin quelque chose qui... Je trouve que l'artiste actuellement ne doit vraiment pas céder là-dessus. Et je trouve qu'il y a parfois, malheureusement, beaucoup, beaucoup trop de compromissions.
Oui, c'est ça.
C'est assez désolant. Enfin, à mon sens, c'est assez désolant.
Oui, il y a comment, du coup, cette normalisation, des fois un peu cette massification aussi de la culture, et puis de comment... continuer, mais ça touche un peu ce qu'on évoquait au niveau de l'écoute, c'est-à-dire de voir au combien qu'à cet endroit-là, il faut qu'on arrive à retrouver des modalités pour ceux et celles qui veulent éveiller leur curiosité, comment on peut entretenir cette curiosité, comment eux aussi peuvent s'y retrouver, comment ils peuvent y trouver du plaisir et du désir aussi, et donc du coup de désir de la curiosité, désir du son, désir de l'inouï du son, vous parliez de l'inaudible aussi des fois.
Oui, c'est ça, et puis d'être... déstabilisé.
Bien sûr.
Et donc, surtout, je pense, ça aussi, ça a un lien avec la psychanalyse, c'est-à-dire de rencontrer l'autre.
C'est ça.
Chez Apergis, c'est quand même très fort, ça.
Oui.
Rencontrer l'autre dans la musique, c'est-à-dire ne pas tout le temps chercher le même de ce que l'on connaît déjà et que l'on voudrait tout le temps retrouver par conformisme et par confort. Donc, voilà, ça, c'est pour. Je trouve que c'est quand même. Et pour un compositeur. Oser ça aussi, c'est tout le temps se remettre en question et tout le temps essayer d'autres chemins qui ne sont pas ceux dont on a l'habitude, mais qui mettent en danger forcément, mais qui sont quand même primordiales. C'est primordial de tenter ce genre d'aventure.
Je rebondis à nouveau avec Apergis, mm-hmm. un de ses propos, et voilà ce qui nous livre aussi. Je ne crois qu'au moment présent, à ce que nous vivons dans l'instant. Mm-hmm. Il y a une succession de moments, la musique, c'est pareil. Mm-hmm. J'essaye d'enlever au récit sa continuité, le lien de cause à effet. Mm-hmm. Quand c'est réussi, cela donne une énergie incroyable, parce que la succession des moments, des fragments, constituent une espèce d'explosion à chaque fois. Même si j'essaie de trouver une logique interne à la pièce, elle ne répond à aucune espèce de cohérence logique. Oui, une autre manière d'expliciter
c'est ça.
Ce que vous nous livrez, Tony Boss aussi, et dans votre recherche aussi à vous, et de comment aussi Georges Apergis, à travers ses mots, nous livre aussi des modes d'entrée aussi, de compréhension dans sa quête aussi à lui, de comment il conçoit la musique. Mais c'est vrai que on voit bien que ce côté, on sait que la musique est plurielle, comme le monde est pluriel et comme le vivant est pluriel, mais que cette diversité, elle ne nous est pas toujours aussi offerte d'entendre, en tout cas une certaine manière d'entendre la musique,
oui,
de faire la musique.
C'est-à-dire, c'est toute la définition de l'œuvre d'art, en fait.
Bien sûr.
Qui est souvent, de nos jours, mélangée avec le divertissement commercial, parce que, ou dans un certain milieu social, ça correspond à ce qu'on attend ou pas.
C'est ça.
On peut pas non plus avoir la volonté, à mon sens, de déranger tout le temps.
Bien sûr.
Mais respecter un public, c'est pas toujours lui donner ce qu'il attend.
C'est ça.
Voilà. Donc, c'est difficile, mais quand même, voilà.
Oui, parce que le rôle de l'art aussi est d'amener des surprises, d'amener dans des chemins qu'on n'attendait pas.
C'est aussi la différence, je crois, entre l'expression et l'interprétation.
Aussi.
Ça, c'est vraiment le rapport aux instrumentistes qui se trouvent là.
Oui.
Parce que souvent, ils sont. Et heureusement, ils ont étudié pour ça, ils sont dans l'interprétation la plus précise
possible.
Même dans la musique contemporaine.
Bien sûr.
Mais que se passe-t-il si le compositeur arrive avec simplement l'expression de quelque chose? Donc ça c'est vraiment, je crois que c'est très déstabilisant.
Complètement.
Et il peut y avoir des conflits très forts qui peuvent apparaître à ce moment-là, mais je trouve ça vraiment très important.
Oui, parce que l'implication de l'interprète, il se situe à un autre endroit.
C'est ça, il doit être lui-même dans cette expression.
C'est ça.
Ce qui ne veut
c'est
pas
ça.
Dire qu'après, en travaillant l'œuvre, il y aura une interprétation quand même, mais c'est pas ça qui est premier.
C'est ça.
Et ça, j'expérimente de plus en plus ça, parce que
il me semble que c'est au cœur de votre préoccupation.
Actuellement, hein, aussi, c'est ça, c'est l'expression, et je trouve que l'art brut, par exemple, permet de
trouver ce rapport.
Voilà, aussi une certaine forme, c'est pour moi, c'est aussi lié à la folie, parce que dans la folie, je ne veux pas parler du fou, mais il y a une expression directe, qui ne se préoccupe pas du tout de qui, enfin, de quoi,
c'est ça.
Ça s'exprime.
Ça s'exprime.
Voilà. Je crois que c'est un peu lié à Spinoza aussi.
Oui.
Je suis pas assez. voilà. Et cette expression qui n'a aucune transcendance, qui est dans l'immanence directe, je trouve que voilà, ça m'intéresse beaucoup en ce moment, en tout cas. Ouais. Voilà.
J'ai fait une fausse note. Tâche là. Plus de musique difficile à jouer.
Voilà, Denis Bosse, nous arrivons au terme de cette conversation à deux voix. Nous avons eu plaisir à pénétrer déjà un petit peu votre univers, votre espace de pensée, de pourquoi aussi vous avez entrepris ce chemin aussi à travers de la musique. J'espère, chers auditeurs et auditrices, vous avez eu plaisir aussi à cheminer avec nous. Peut-être y a-t-il des projets tout proches pour vous d'une œuvre qui aboutirait prochainement ou qui est en phase d'écriture aujourd'hui ?
Il y en a une qui vient de se terminer autour de la musique baroque, qui s'appelle Baroque Walk. Ensuite il y a beaucoup de projets.
Il y a beaucoup de projets d'écriture.
Beaucoup, et donc je jongle un petit peu avec tout ça. Il y a un projet donc avec les percussions de Tréfort
aussi,
sur des textes magnifiques qui sont justement pour moi un symbole d'expression et que je voudrais traiter comme tel. C'est pour ça que ça m'intéresse
bien
beaucoup.
Sûr.
Puis après, un projet de concerto pour orgue et ensemble à cordes, et puis un projet avec une marionnette et un orchestre. Sur la Vita Breve,
oui.
Qui est une pièce de. Ben voilà, que j'oublie le nom. Zut. Et puis bon, voilà. Et puis donc, puis d'autres projets encore.
D'autres projets.
Aussi un projet autour de Goodbye Lulina.
Ah oui.
Et ces pièces pour guitare. Où là, j'aimerais bien écrire une lettre à Goodbye Lulina, mais entourée par ses musiques.
Par ses musiques.
Voilà,
c'est un projet aussi.
Oui, c'est un beau projet, oui, ça.
Voilà. Donc on voit qu'il y a une super belle dynamique, en tout cas, Denis Bosse.
Oui, en ce moment, ça va. Voilà. C'est parti.
Donc on aura plaisir, chers auditeurs et auditrices, à...
Paul Willems, voilà.
Voilà,
Paul Willems. Je retrouve son nom, pardon.
Voilà, non, je vous en prie. Donc du coup, on aura plaisir à suivre cette actualité de temps en temps dans notre émission.
Merci beaucoup.
En tout cas, merci d'avoir participé à cette invention à deux voix.